théâtre à tous les coins.
Bonjour à tous, chers auditeurs, bienvenue de nouveau dans notre émission du théâtre à tous les coins. J'espère que vous nous avez écoutés la semaine dernière et que vous nous écouterez encore très longtemps dans les semaines à venir. Aujourd'hui avec moi pour animer cette émission de théâtre 100% théâtre, Michel. Bonjour Michel.
Bonjour Cathy, bonjour à tous.
Et donc, nous accueillons notre invité du jour. Aujourd'hui, il s'agit de Frédéric Mounier. Frédéric, bonjour.
Bonjour, merci de m'accueillir.
C'est avec grand plaisir, Frédéric, et je vais laisser Michel vous présenter.
Oui, alors bonjour à tous. Alors, je suis ravi d'accueillir aujourd'hui Frédéric Mounier, donc, qui est donc le créateur du Théâtre Solaire. Alors Frédéric, bonjour. Alors la première question donc qui me vient tout de suite là. Donc on a vu que au départ le Théâtre Solaire s'appelait les Escogriffes, puis qui est devenu le Théâtre Solaire. Donc pouvez-vous nous expliquer un peu le début de cette aventure, s'il vous plaît?
Ah, l'aventure commence très loin. Elle commence dans la cour de récréation de mon école.
Super, et ça remonte à combien d'années ça? sans vouloir être indiscret.
C'était le début des années 60, voilà. Pendant la récréation, je jouais au théâtre, sans jamais être allé au théâtre, voilà. D'accord. Donc, je pars de loin, mais je vais aller vite. Si cette passion était déjà en moi, je l'ai plus ou moins oubliée, parce qu'ensuite il y a eu les études, il y a eu la vie, j'ai fondé ma famille. Et voilà, une vingtaine d'années, j'ai craint d'avoir des remords. Et j'ai intégré une troupe, oui, qui s'appelait les Escogriffes.
D'accord.
Qui s'appelle toujours d'ailleurs les Escogriffes.
Donc une troupe de Montpellier.
Une troupe de Montpellier.
D'amateurs.
Oui, c'est ça. Et cette troupe existe toujours d'ailleurs, mais, et j'en fais toujours un peu partie, enfin j'en fais toujours partie, mais il y a une dizaine d'années maintenant, vers 2007-2008, j'ai eu vraiment envie de pousser ma passion et de partir sur des vrais défis de texte.
D'accord.
Donc si on résume, Frédéric, donc vous dites que en fait la passion du théâtre vous a pris très tôt, mais que finalement elle vous a attrapé, si je puis m'exprimer ainsi, à quoi, à la quarantaine?
Oui, c'est ça. À la quarantaine.
Et donc, il n'est jamais trop tard pour faire du théâtre.
Exactement.
Il n'est jamais trop tard pour ne rien faire. Enfin, voilà.
Il était peut-être un peu tard, mais il n'est jamais trop tard, effectivement. Oui.
Et ça n'a pas été trop difficile de se mettre au théâtre à 40 ans?
Non. Vous savez, la passion ouvre toutes les portes.
D'accord. Et donc, c'est ainsi que est né le Théâtre Solaire. Alors, l'une des premières créations, en tout cas, de représentation, pardon, que j'ai pu voir, moi, c'est Mathieu Solaire. Alors, Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'aventure Mathieu Solaire, que j'ai vue, qui est une pièce absolument extraordinaire?
Bah, je vous ai dit, je cherchais vraiment un défi. J'ai trouvé un texte magnifique d'un auteur parisien contemporain qui s'appelle Marc de la Ruelle. Et j'ai voulu monter ce texte-là. Je me suis entouré d'une metteur en scène, Nadine Jadin-Pouilly, qui habite notre région, et d'un jeune partenaire que j'ai trouvé dans un atelier de théâtre. Voilà. Mm-hmm. Et nous avons travaillé 2 ans et demi avant de jouer.
Donc vous êtes 2 comédiens, la metteur en scène.
Oui.
Elle est professionnelle?
Elle était professionnelle, oui.
D'accord. Oui. Alors, comment ça se passe quand un groupe de comédiens amateurs veulent créer un nouveau spectacle? Donc, apparemment, les Escogriffes ne proposaient pas ce théâtre. Vous avez, enfin, cette pièce, donc vous avez décidé de prendre en main toute l'aventure.
Oui.
Et donc, vous faites appel comment à un metteur en scène? Vous trouvez un metteur en scène sur Internet? Comment ça se passe? Vous faites appel à la Fédé?
Oui, il y a de la notoriété pour certaines personnes qui passe par le bouche à oreille. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Nadine. Voilà. Mmh.
Et alors, il faut la rémunérer.
Alors, Nadine a été formidable, oui. C'était surtout, comment dire, un deal entre nous, une passion commune, puisque elle-même est une grande passionnée. Et donc, oui, on l'a rémunérée, oui, pour toutes les séances de travail. Mais elle était... n'était pas très exigeante, si je puis dire. Et elle nous avait dit, si un jour ça marche bien, à ce moment-là, on verra. Voilà.
Alors, juste avant de continuer un peu la suite, parce qu'il y a d'autres pièces, concernant l'aventure Mathieu Solaire, j'ai vu en préparant l'émission avec Cathy, donc il y a eu beaucoup de représentations, pas seulement dans la région, et je crois même qu'il y a des personnes du show business qui sont venues assister à cette pièce. Hein. Je crois que vous avez quelques connaissances dans le milieu du show business.
Alors là, on pourrait faire une autre émission, bien sûr. J'ai une passion aussi pour une personne. Alors, depuis que je suis enfant, depuis que je l'ai vue à la télévision dans des shows qui me paraissaient très, très modernes, puisque j'aime le spectacle, sinon je ne ferais pas de... Voilà. Oui, effectivement, c'est Lynn Renaud.
D'accord.
Je l'ai rencontrée réellement, j'avais 20 ans, elle était au Casino de Paris. Il y a eu ce qu'elle appelle elle-même une amitié fidèle. Voilà, nous nous connaissons depuis, on échange beaucoup. Et effectivement, elle est venue voir Mathieu Solaire.
À Montpellier.
À Paris.
À Paris, parce que vous avez joué Mathieu Solaire à Paris.
Voilà, exactement.
C'est ça. Et donc, voilà, et je vous passe l'émotion que j'ai pu ressentir quand elle est entrée dans la salle et qu'il fallait cette fois être sur la scène et elle sur un fauteuil.
Ouais. Et c'est suite à ce spectacle que vous avez fondé, créé votre propre compagnie amateur.
Voilà, parce que ma compagnie n'avait pas vraiment de nom. Et cette pièce qui a été la pièce de ma vie, toutes les pièces sont les pièces de notre vie, mais celle-là était particulièrement forte, Mathieu Solaire. Donc j'ai appelé, c'est un hommage au personnage que je jouais dans cette pièce, le théâtre Solaire.
Mmh. Voilà. Donc là, vous avez une double casquette. Vous êtes comédien et vous êtes aussi responsable de troupe.
Oui, c'est ça. C'est ça.
Et d'ailleurs, cette pièce a été présentée au Festival Off d'Avignon.
Oui, c'était en 2008. Oui,
exactement. Mmh.
Une belle aventure, très belle aventure. Ouais.
Donc vous l'avez jouée combien de temps, cette pièce?
3 ans. 3 ans, oui. 70, 80 fois, je n'ai pas compté, mais quelque chose comme ça.
Et comment on va à Avignon, comment on participe au Festival Off quand on est une troupe de comédiens amateurs?
Et il faut avoir un producteur.
Ah.
Voilà.
Producteur qui vous offre sa vitrine professionnelle, voilà, et qui a suffisamment un coup de cœur pour vous, pour vous produire, voilà.
Uh-huh. Et vous avez fait appel à un producteur ou c'est quelqu'un qui vous a découvert par hasard?
C'était un peu le hasard. C'était un peu le hasard, mais le hasard, cette fois-là, a bien fait les choses. Et il a permis à mon rêve de grimper très haut.
Parce que vous n'imaginiez pas le Off d'Avignon?
Au début, non. Non. Mais enfin, vous savez, vous connaissez la force d'attraction. Et il y a quelquefois des idées qui sont là dans la tête et petit à petit on se dit mais oui, mais ça va venir, ça arrive et c'est formidable, oui. Il faut croire.
Racontez-nous Avignon.
Avignon, vous passez la moitié de la journée à tracter, à faire le pitch de la pièce avec énergie et en essayant de convaincre un maximum. Puis vous allez vite vous habiller, vous changer, la musique démarre et vous jouez. Voilà, et puis ensuite, vous vous changez, vous ressortez dans la lumière et vous marchez au milieu des gens qui ne savent pas que vous venez de faire toute une aventure et de vivre des tas de choses.
Vous êtes resté combien de temps à Avignon?
Les 3 semaines.
Les 3 semaines?
Oui, oui, oui.
Et surtout sur une pièce aussi forte et l'enchaînement des représentations jour après jour n'était pas trop difficile pour des amateurs qui n'ont pas forcément l'habitude de ce rythme?
Oui, non. Je dirais que ce qui peut... L'écueil à éviter, c'est la routine, comme dans la vie. et donc, si vous commencez à penser à autre chose en jouant, non, ça ne va plus. Ça ne m'est arrivé qu'une fois. Et je me suis dit non, attention, voilà. Et donc, je me suis reconcentré pour revivre à chaque fois les émotions et tout ce qui animait mon personnage, voilà.
Et au niveau financier, c'est un gouffre, Avignon, non?
C'est un investissement, certes, oui. Et il faut pouvoir investir pour le créneau, pour l'hébergement, pour les inscriptions, pour les affiches. Mais le spectacle a suffisamment marché pour que ça se équilibre.
Ouais. La balance est équilibrée.
Oui, tout à fait. Ouais.
Donc, pour cette belle aventure de Mathieu Solaire.
Oui.
Donc, ensuite, en continuant un peu à étudier votre compagnie, on voit entre 2012 et 2018, là, vous êtes passé sur un autre registre, je dirais, avec Très chère Mathilde de Israël Horovitz.
Exact.
Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu?
Et alors, une très belle pièce aussi que j'ai adoré jouer. D'une pièce d'Horovitz, donc un auteur américain. C'était une traduction, une adaptation française. Et pour la petite histoire, c'est Lynn Renault qui jouait cette pièce à Paris.
Ah. C'est pour ça que vous l'avez choisie.
Qui m'avait invité à la Générale. Et sur le moment, j'ai adoré la pièce et je n'ai pas pensé à moi. Et quelques mois plus tard, je me suis dit, mais voilà, tu te cherches un texte, parce qu'on est toujours en train de chercher quelque chose avec toutes les difficultés qu'il y a. Et là, je me suis dit, mais voilà, voilà. Donc, il fallait quand même... c'est une pièce psychologique, avec de l'émotion, mais aussi beaucoup de rire.
Oui, oui, c'est vrai.
Et ça, c'était, je trouve, la mayonnaise parfaite pour une pièce. Voilà. Et mon personnage devait parler avec l'accent américain. Donc là, ça a été le premier critère à...
Défi.
Le premier défi, voilà. Ouais. Et ça s'est bien passé, je crois.
Un accent qui était parfaitement bien tenu, d'ailleurs. Et personnellement, en ayant vu cette pièce, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup, d'humour, beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments dans cette pièce de théâtre, ce qui fait que le public s'y retrouvait.
Oui.
Et donc, vous aviez deux partenaires, deux comédiennes avec
vous. Deux comédiennes, oui.
Ouais, avec vous dans cette pièce.
Voilà.
Et là, vous aviez aussi une metteur en scène ou un metteur en scène?
Non, là, j'ai mis à profit ce que j'avais appris dans les années précédentes pour faire ma propre mise en scène avec mes propres idées.
Donc, troisième casquette, metteur en scène.
Oui.
Et vous arrivez à tenir les trois, c'est-à-dire, je le répète, comédien, responsable de troupe et metteur en scène.
Oui, et on a beaucoup de choses sur les épaules, mais tout ça se fait dans le plaisir malgré tout.
Oui. Oui, c'est une passion, comme vous l'avez dit et répété, effectivement. Ça fait beaucoup, malgré tout, quand on est amateur et qu'on a une vie professionnelle à côté.
Oui, oui, mais les idées viennent en travaillant. Lors de l'acquisition du texte, lors des répétitions, les idées viennent. Et j'ai un peu cette faculté de pouvoir m'éloigner de ce qui se passe sur la scène pour avoir une vision. Voilà, ce qui m'a permis de faire cette mise en scène, aidée aussi par la vidéo. Voilà.
Mmh. Cathy parlait justement de vie professionnelle à côté et la vie personnelle. Donc, comment vous arrivez à conjuguer tout ça? Vie personnelle, théâtre, mise en scène,
famille,
etc.
Oui. Alors, je travaillais chez Orange, on peut le citer.
Oui.
Oui, voilà, c'est fait, dans le service de communication. Et le week-end, je partais jouer. Voilà. Et quelquefois, le lundi matin, je rentrais, je m'asseyais à l'ordi. On me disait, tu as passé un bon week-end? Oui, oui. Et je ne disais pas plus parce que j'avais passé un week-end merveilleux, mais je ne pouvais pas leur raconter à quel point j'étais allé jouer à Tours, à Paris. Mais j'étais là le lundi matin.
Et la famille suit régulièrement?
Et la famille suit. Mon épouse est donc ma régisseuse préférée.
C'est pratique.
C'est pratique. On a quasiment le même emploi du temps, donc on est toujours dispo quand l'un l'est, quand l'autre l'est. Et elle est assez... pointilleuse, donc pas pointilleuse, comment je pourrais dire, cartésienne. Donc les plages musicales, en fait surtout les ambiances sonores et les lumières partent
pile poil
comme je le souhaite. Voilà.
Sinon elles se font engueuler.
Non du tout. non du tout, mais ça me permet de me reposer. Je sais que j'ai confiance et je peux justement me concentrer sur le rôle,
voilà, pas sur l'aspect technique.
Et moins sur... Oui, absolument. Oui, oui.
D'accord, c'est important ça. Et donc, en avril 2018, donc, si on ne se trompe pas, vous avez joué la centième de
Très chère Mathilde.
Tout à fait. Ma question était, vous parliez tout à l'heure donc, de passion, etc. Est-ce que jouer 100 fois une pièce, est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où...
La routine, vous parliez de routine.
Voilà, exactement, tout à fait.
Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Au plus on joue une pièce, au plus le texte devient notre ami. C'est-à-dire, on n'y pense plus. Pour très chère Mathilde, je changeais beaucoup de costumes et j'avais beaucoup de textes, mes partenaires aussi. Mais je pensais même plus, c'était mes mains qui allaient chercher les costumes. Je pensais même plus et j'entrais en scène sans avoir à réfléchir à l'avance à ce que j'allais dire. C'était devenu une évidence. Donc non. Ah non, j'aurais adoré jouer une pièce 4 ans d'affilée dans un grand théâtre à Paris. Ah oui.
Donc là, dans ce cas-là, l'habitude, hein, vous venez de le dire, hein, vous dites que les gestes sont mécaniques, etc. Ce côté habitude mécanique n'enlève rien à la sensibilité, à l'émotion, à la force théâtrale.
Non, sur scène, je suis le personnage. Mais il reste une partie de Frédéric qui, là, gère toute la logistique. Voilà. Mais le personnage, il est là... Et son émotion est vraie à chaque fois.
D'accord. Donc en fait, cette routine se transforme en plaisir.
Oui.
C'est comme ça qu'on pourrait le résumer ?
Tout à fait.
D'accord.
Oui.
Ok.
Et elle est synonyme de qualité ?
Je l'espère, c'est en tout cas le...
Non,
le,
on vous... Le... Ça, on n'en a absolument aucun doute. mais voilà, non, mais c'est formidable, parce que dans la vie quotidienne, malheureusement, l'habitude est rarement liée, mène rarement à la qualité, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. En théâtre, c'est possible.
En théâtre, c'est possible. Il faut passer au-delà de cette routine dont je parlais et qui m'a saisi une fois à Avignon. Et c'était une leçon ce jour-là. Et je me suis dit, plus jamais. Ouais.
D'accord. Ensuite, vous êtes désormais dans ce qu'on appelle dans le jargon un seul en scène.
Oui.
Donc, dans le Horla, d'après Guy de Maupassant, donc qui, depuis 2018, et que vous jouez encore actuellement. Vous avez encore pas mal de dates de prévues. Vous nous en direz plus tout à l'heure.
C'était un autre défi encore que de se retrouver seul sur la scène. J'avoue que j'ai douté. De toute manière, un comédien doute tout le temps. J'ai douté. J'ai mis 16 mois pour apprendre ce texte. Je l'ai jeté deux fois en me disant « je n'y arriverai pas » ou « quand bien même si j'y arrive, je serai peut-être ridicule voilà. ». Et une voix me disait « si tu y arrives, tu seras tellement heureux que cette voix m'a poussé à aller jusqu'au bout ». Et effectivement, l'accueil du public me prouve que j'ai probablement eu raison. Et je suis vraiment heureux.
Je confirme. Je me place en tant que public, je confirme.
D'ailleurs, puisque c'est un one-man show, je ne sais pas si on dit un one-man show en théâtre, vraiment.
Pas tout à fait, pour ce genre de pièce, mais voilà.
Donc c'est un monologue. Donc en fait, nous vous avons sollicité, Frédéric, nous vous avons demandé avant l'émission si vous accepteriez de jouer, alors jouer évidemment, là on n'est qu'à la radio, donc il va y avoir que la voix. Un petit passage du Horla.
Mais tout à fait. Il faut peut-être le remettre dans son contexte.
Ouais. On va d'abord lancer la virgule.
Il y a la fin de l'envoi. Je touche.
Frédéric, le contexte du Horla et du passage que vous allez interpréter.
Le début de la nouvelle, écrite par Maupassant, décrit un personnage pour lequel tout va bien, dans un monde ensoleillé, et voilà. Un détail anodin du premier jour, puisque c'est écrit comme un journal, va déclencher quelque chose pour lui. Il va commencer à se demander si un être invisible habite à côté de lui, chez lui, ou bien s'il est en train de devenir fou. Des choses vont lui arriver, voilà. Si vous voulez, je vais vous jouer l'un des premiers jours où il ressent des choses...
Troublantes.
Avec grand plaisir.
Voilà. Donc, il a déjà eu des soucis. 25 mai. Aucun changement. Mon état vraiment est bizarre. À mesure qu'approche le soir, une inquiétude incompréhensible m'envahit comme si la nuit cachait pour moi une menace terrible. Je dîne vite et puis j'essaie de lire, mais je ne comprends pas les mots, je distingue à peine les lettres. Je marche alors dans mon salon, de long en large, sous l'oppression d'une crainte confuse et irrésistible, la crainte du sommeil et la crainte du lit. Vers 10 heures, je monte donc dans ma chambre. À peine entré, je pousse les verrous, je donne deux tours de clé. J'ai peur. Mais de quoi ? Je ne redoutais rien jusqu'ici. J'ouvre mes armoires, je regarde sous mon lit, j'écoute. Chut. J'écoute. Quoi ? Est-ce étrange qu'un simple malaise, un trouble de la circulation, peut-être l'irritation d'un filet nerveux, un peu de congestion, une toute petite perturbation dans le fonctionnement si imparfait et si délicat de notre machine vivante, puisse faire un mélancolique du plus joyeux des hommes et un poltron du plus brave. Puis je me couche. Et j'attends le sommeil comme on attendrait le bourreau. Je l'attends avec l'épouvante de sa venue, et mon cœur bat, et mes jambes frémissent, et tout mon corps tressaille dans la chaleur des draps, jusqu'au moment où je tombe tout à coup dans le repos, comme on tomberait pour s'y noyer, dans un gouffre d'eau stagnante. Je ne le sens pas venir comme autrefois, ce sommeil perfide caché près de moi, qui va me prendre par la tête, me fermer les yeux, m'anéantir. Je dors. Longtemps, deux ou trois heures. Puis un rêve, non, un cauchemar m'étreint. Je sens bien que je suis dans mon lit et que je dors, je le sens et je le sais. Mais je sens aussi que quelqu'un me regarde, s'approche de moi, me palpe, monte sur mon lit, s'agenouille sur ma poitrine, me prend la gorge entre ses mains et serre de toute sa force pour m'étrangler. Moi, je me débat, lié par cette impuissance atroce qui nous paralyse dans les songes. Je veux crier, je ne peux pas, je veux remuer, je ne peux pas. J'essaye dans un effort affreux, en haletant, de me tourner, de rejeter cet être qui m'écrase et qui m'étouffe. Et soudain, je m'éveille, affolé, couvert de sueur. J'allume une bougie et je suis seul. Après cette crise qui se renouvelle chaque nuit, je dors enfin avec calme jusqu'à l'aurore.
Bravo Frédéric Mounier, bravo, on vient d'entendre un passage du Horla que vous jouez, vous êtes seul sur scène. Là vous nous avez emmené le texte, hein, mais bien sûr là vous l'avez dit sans évidemment regarder une ligne. Mm-hmm. C'était très beau à entendre. J'espère que là, tous nos auditeurs ont bien pris la mesure de l'émotion qui passait. Mais c'était aussi très impressionnant de vous voir, hein, puisque nous, on a la chance d'être là près de vous, hein, et de voir comment, effectivement, vous semblez complètement habité par le personnage.
Ben, merci. Ouais. Merci. Donc, notre personnage va vivre des choses qui vont beaucoup le troubler. Il va s'échapper en deux fois pour des voyages qui vont être des sortes de voyages...
Salvateurs.
Oui, salvateurs. Et aussi où il va apprendre des choses sur l'hypnotisme, sur toutes ces raisons de pouvoir être manipulé. Voilà.
Pourquoi vous avez choisi le Horla ? Qu'est-ce qui vous a poussé vers cette... cette œuvre ?
C'est toujours difficile, après coup, de savoir pourquoi on a choisi. Voilà. Je crois qu'il est venu à moi. Je cherchais un spectacle seul, comme je vous l'ai dit. Je voulais une performance, entre guillemets.
Mm-hmm. Voilà. C'en est une.
Voilà. J'aime bien, quand je sors de scène, être tout trempé.
Et là, vous l'êtes,
oui.
En l'occurrence.
Oui.
D'accord. Alors, en fait, si on résume, en fait, vous aviez rêvé d'Avignon, vous l'avez fait. Vous aviez rêvé d'un seul en scène, vous l'avez fait. Mais quels seraient vos prochains rêves encore, s'il y en a ? Parce que je suppose que, voilà...
Déjà, retrouver un nouveau texte pour un nouveau projet. Il faut absolument que je commence à y penser, même si le Horla a une vie, à mon avis, très longue.
Ça fait combien de fois que vous jouez le Horla ? Vous savez à peu près ?
Ça fait un an que je l'ai commencé, je l'ai joué à peu près 20-25 fois. Et les mois qui arrivent là sont pleins de Horla.
D'accord.
Vous allez jouer à Montpellier, profitons-en là, pour faire un petit peu de publicité.
La semaine dernière, j'étais dans le Vaucluse. Cette semaine, je suis à Aix-en-Provence. La semaine prochaine, je serai à Combaillot. Mm-hmm. Voilà, à l'Occitanie. Celle d'après, à l'espace culturel Rendez-vous d'artistes rue de l'Aiguillerie à Montpellier.
Ok, vous pouvez nous donner la date ?
Les dates, alors je vais vous en parler.
Pour la rue de l'Aiguillerie ?
Mm-hmm. Mm-hmm. Non, vous allez voir, je vais vous dire pourquoi. Ensuite, le 9 novembre, je serai à Palavas, mais surtout en mars, je reviens le 20, le 21, le 22 mars pour trois dates au théâtre Pierre Tabar, date pendant lesquelles on va essayer de faire des scolaires pour les élèves des collèges de 4e.
Ah, oui. Oui, c'est au programme,
c'est
en effet.
C'est au programme, oui, oui. Et puis, le 25 mars, jour de mon anniversaire, je serai au CASMA à Castelnau-le-Lez.
Ah, le 25 mars, ce sera votre anniversaire.
Oui.
On peut vous demander votre âge, c'est indiscret ou pas?
Ça sera 64, je crois, déjà.
Ah oui. Ouais. Oh là ah, là. Vous ne les faites pas.
Oui, oui, mais bon, ils sont là. Hein.
Un début de carrière de comédien.
Voilà, ensuite, Sorgue, tout ça. Mais ce que je voulais vous dire surtout, c'est que toutes ces dates sont à jour sur la page agenda de mon site.
Exactement, c'est ce que j'allais dire à nos auditeurs. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas tout noté.
Voilà.
Il y a la page Facebook du Théâtre Solaire, le site également du Théâtre Solaire.
Vous pouvez nous rappeler l'adresse?
Alors, www.théâtre-solaire. Solaire.
Tiré du 6.
Tiré du 6. Solaire, A-I-R-E.
S-O-L-A-I-R-E.
Oui, .com. Et la page Facebook, Théâtre Solaire.
Et voilà, vous avez toutes les actualités dessus.
Donc là, on retrouvera toutes vos dates, c'est bien ça?
Oui, absolument. Okay. Je le tiens à jour chaque jour.
Mm-hmm. Est-ce que c'est vous aussi, donc certainement, qui cherchez, qui démarchez des salles? Parce que là, on l'a entendu, vous avez joué partout. Vous avez joué à Paris, vous jouez dans le Vaucluse. Enfin bref, apparemment dans toute la France ou presque.
C'est vous qui,
c'est vous qui démarchez les théâtres, les salles.
Vous parliez de la mise en scène et de tout. Je fais aussi la com, oui.
Ok,
la com,
donc ça fait 4 casquettes. On en est à 4 là. Hein.
Au moins, au moins.
Au moins.
Au moins, oui.
On va lancer notre petite chronique qui s'appelle le questionnaire de Proust. Ça va vous plaire.
C'est la fin de l'envoi. Je touche.
Frédéric Mounier, vous êtes avec nous et vous allez maintenant devoir répondre au questionnaire de Proust. Je suis sûre, vous le connaissez, on l'a un petit peu raccourci. Oui. Donc on y va, il ne faut pas réfléchir en fait, il faut parler spontanément. Première question, votre mot préféré? Ah, j'ai dit qu'il ne fallait pas réfléchir. Il n'y en a pas?
C'est pas qu'il n'y en a pas. C'est
mon il y en a trop.
Il y en a trop.
Non, je suis désolé.
Vous avez droit à un joker.
Bon, alors je le prends déjà. alors que pourtant, c'était facile.
Après, vous pourrez demander l'avis du public si vous le voulez.
Le mot que vous détestez?
Oh, il me vient racisme dans la tête, comme ça. Voilà.
Votre drogue favorite?
Le théâtre.
Le son ou le bruit que vous aimez?
L'eau qui coule.
Votre juron, gros mot ou blasphème favori?
Fistre, diantre, bougre.
Homme ou femme pour illustrer un nouveau billet de banque?
Français, j'imagine.
Comme vous voulez.
Bon, je vais dire Lynn Renault pour rester dans le ton.
Mais oui,
je me suis dit. Bah,
le métier que vous n'auriez pas aimé faire?
À mon avis, tous les métiers sont honorables maintenant. J'aurais pas été assez costaud pour soulever des poids. Voilà, un métier manuel, c'était pas pour moi.
Vous regrettez de ne pas avoir fait du théâtre ou de comédien ou de metteur en scène votre métier?
Peut-être, un peu, parfois.
La plante, l'arbre ou l'animal dans lequel vous aimeriez être réincarné?
La plante, l'arbre ou l'animal? Un chien.
Pourquoi pas?
Pourquoi pas?
Allez, la dernière question, après on vous laisse tranquille. Si Dieu existe, qu'aimeriez-vous après votre mort l'entendre vous dire?
Tu aurais pu mieux faire, tu vas y retourner.
Et vous allez y retourner avec grand plaisir. C'est
oui.
Ça?
Oui.
Okay. Bien, Frédéric Mounier, notre entretien se termine. Encore un grand merci à vous d'avoir pris le temps de venir à la radio.
Merci beaucoup, ça a été un vrai, vrai plaisir de vous accueillir, parce que moi j'ai vu pas mal de vos spectacles et je suis vraiment, vraiment ravi de vous avoir accueilli aujourd'hui.
Ouais, je crois que là c'est un fan que vous avez.
C'est pas faux.
Merci à vous deux, merci à Divergence.
Donc on invite tous nos auditeurs à venir vous voir pour le Horla ou pour un nouveau projet, notamment en mars, puisque vous l'avez dit, mais... Comme on l'a dit et on le répète, on peut retrouver toute votre programmation sur votre site. Rappelez-le une dernière fois,
théâtre-solaire.com.
Merci encore à vous Frédéric, merci Michel,
merci
à Bruno pour la technique et on vous dit à très bientôt chers auditeurs, à ciao, bonsoir.
À très bientôt, merci beaucoup.
Du théâtre à tous les coins. Mmh.